France Inter. Éric Delvaux. Le 6-9 du week-end.
Bonjour Jean-François Colosimo.
Bonjour.
Vous êtes historien des religions, auteur l'an dernier d'un livre remarqué sur la laïcité qui a pour titre « La religion française » paru aux éditions du Cerf que vous présidez. Des églises vides pour la Toussaint, alors certes en raison du confinement, mais aussi par peur d'une nouvelle attaque terroriste. Comment désormais les chrétiens peuvent-ils continuer de pratiquer leur culte ?
Alors évidemment, l'affaire de Nice fait suite à, évidemment, l'égorgement du père Hamel, et les catholiques sont à la fois meurtris, dans le deuil, mais c'est aussi le sens de leur foi de témoigner, et je pense que tout particulièrement, il serait tout à fait regrettable que l'on ferme les églises pour des questions totalement sécuritaires, parce que l'Église catholique, il faut le répéter, il faut le dire, au niveau mondial, au niveau européen, au niveau français, au niveau local de Nice ou de Saint-Étienne-du-Rouvray, c'est le principal organisme qui est dans un dialogue soutenu avec le monde musulman.
Mais d'ailleurs, après l'assassinat du père Hamel, l'Église avait invité les musulmans dans les églises.
Tout à fait, et il faut savoir encore, vous voyez, que la grande encyclique, la récente, du pape François, qui d'ailleurs concerne un peu tout le monde, parce qu'elle porte sur l'état du monde, sur l'économie, sur l'inégalité et l'injustice.
Encyclique sur le grand moufti d'Égypte.
Voilà, elle démarre par son dialogue avec le grand moufti d'Égypte, le moufti d'Al-Azhar, qui n'est pas l'équivalent du pape, ça n'existe pas dans le monde sunnite, mais qui est une véritable autorité aussi. Donc je dirais, de ce point de vue-là, oui, des catholiques meurtris, des catholiques inquiets, mais ce ne sont pas les seuls. Je veux dire, aujourd'hui, en fait, les fidèles de chaque culte peuvent être inquiets pour eux-mêmes et pour leurs ministres du culte, que ce soit des rabbins, que ce soit des prêtres, que ce soit des pasteurs, mais que ce soit aussi, il faut le dire, des imams qui courageusement s'élèvent contre le fanatisme. Et on sait que certains d'entre eux vivent d'ores et déjà sous protection policière.
L'Église catholique qui fait la promotion effectivement du dialogue interreligieux, mais aussi assez peu de temps finalement, les instances musulmanes de France qui font aussi la promotion de ce rapprochement interreligieux, est-ce que c'est un positionnement chez les musulmans qui pourrait attirer les foudres des plus radicaux ?
Absolument. La grande nouvelle, effectivement, c'est que s'il y a 20 ans de cela, lors du premier procès Charlie Hebdo, on avait des institutions musulmanes françaises qui étaient en quelque sorte dans une position soit embarrassée, soit frileuse, soit parfois d'ailleurs un peu agressive. Aujourd'hui, ça c'est fini. Il faut lire ce qu'a écrit le recteur de la grande mosquée de Paris, n'est-ce pas ?
Rappelez-le nous.
Sur Charlie. Ce qu'il a dit très normalement, il faut que Charlie vive. Il n'y a pas de contestation de la liberté d'expression, quand bien même elle pourrait paraître choquante ou offensante.
C'est un petit peu ensuite ce qu'a dit aussi Emmanuel Macron, là,
absolument,
tout récemment.
Absolument. Ensuite, il y a eu, et ça c'est très important aussi, la déclaration du Conseil français du culte musulman, qui est l'interlocuteur de l'État. Lorsque monsieur Erdogan a appelé au boycott des produits français en menant une espèce de campagne tout à fait forte et féroce contre la France, le Conseil français du culte musulman a pris cause et partie pour la nation. Vous voyez ? Donc là, il y a un véritable
mouvement.
On parlera
tout à l'heure du rôle de Recep Erdogan dans un instant. Juste aujourd'hui, dans les églises de France, l'évangile des béatitudes selon saint Matthieu va être lu, et je cite un passage, « Heureux les partisans de la paix, si l'on vous persécute à cause de moi, votre récompense sera grande auprès de moi. » Ce passage, c'est une façon pour les catholiques de dire non à la vengeance.
Oui, mais très précisément, et sans être cuistre, le mot grec, c'est les fabricants de la paix. N'est-ce pas ? L'évangile dit bien que la paix, ça se fabrique. La paix, c'est pas un donné comme ça. Il faut être volontaire pour la paix, il faut construire la paix, et c'est ça qui est très important. La paix, ça ne se construit pas tout seul.
Mais comment est-ce que l'Église peut résoudre l'équation d'être à la fois fraternelle, mais aussi combative, malgré tout ?
Elle est combative lorsque elle ne prend pas sur elle, je dirais, la haine, en répondant à la haine par la haine ou la détestation ou l'exécration. C'est tout le sens du christianisme là qui est en jeu.
En tout cas, elle doit rester sur ses gardes.
Mais elle doit rester sur ses gardes, bien sûr. Mais tout le monde doit rester sur ses gardes à l'heure qu'il est, puisqu'on a affaire à une forme de néo-terrorisme qui peut frapper n'importe qui, n'importe quand, sans prévision.
Les djihadistes souhaiteraient une guerre, ce qu'on peut appeler une guerre de religion.
Bien sûr. Pourquoi ? Parce que c'est toute la stratégie djihadiste, elle est expliquée dans leur texte. Le ventre, dans leur guerre planétaire, le ventre mou, c'est l'Europe, n'est-ce pas ? Dans cette Europe, la France, c'est le pays qui a à la fois la plus importante communauté juive, oui, et la plus importante communauté musulmane. Deuxième point qui est très important aussi, c'est qu'il réactive toute une forme de construction imaginaire historique. Les Français, ce sont les francs des croisades, n'est-ce pas ? Et vous voyez bien que ce qui compte, c'est la manière dont l'ennemi vous désigne dans un conflit, et donc on ranime les croisades, et c'est la France qui aurait fait les croisades, la France d'aujourd'hui qui aurait fait les croisades. Après, il y a le souvenir de la colonisation et de la décolonisation qui marque.
On va y revenir justement sur ce passé que vous connaissez bien en tant qu'historien des religions. Le mot guerre qui est utilisé aujourd'hui, on l'entend dans la bouche de Manuel Valls, on l'entend dans la bouche de Marine Le Pen, dans la bouche de certains membres du gouvernement. Est-ce que nous sommes effectivement rentrés dans une guerre des religions ?
Alors, guerre des religions, c'est le spectre qu'il faut éviter. Guerre de manipulation du fait religieux et d'instrumentalisation, ça, on y est. Et ça, on y est, en fait, depuis très très longtemps. Depuis une quarantaine d'années, le monde a basculé idéologiquement et la religion est devenue un instrument politique, de manière planétaire d'ailleurs.
Hein ? Qui a poussé à cette guerre des religions, selon vous ?
Je pense que si vous regardez l'état de la planète, et pour corriger un tout petit peu les choses, en 1979, vous avez le pape Jean-Paul II qui traverse le rideau de fer et se rend en Pologne pour apporter la révolution spirituelle. Vous avez Ronald Reagan qui gagne l'investiture républicaine et qui va gagner la présidentielle grâce aux évangéliques. Vous avez toujours en cette année 1979 l'imam Khomeini qui revient à Téhéran pour fonder la première république islamique. Et puis vous avez Léonid Brejnev qui rentre en Afghanistan où l'URSS pour la première fois va en fait se confronter à une panne face aux Moudjahidines. Le monde change en 1979. Il change au lieu des idéologies, en quelque sorte, la grande opposition capitaliste-communiste, on réarme symboliquement. Et on va chercher le plus fort symboliquement, qui est le religieux. 10 ans plus tard, 1989, vous avez la chute du mur de Berlin, et vous avez le début de l'affaire Rushdie. La fatwa lancée contre l'écrivain Salman Rushdie, accusé de blasphème pour son portrait du prophète dans les versets sataniques. Et en France, vous avez le bicentenaire de la Révolution et vous avez la première affaire de Wall, l'affaire de Creil. Vous voyez bien que le monde bascule à partir de ce moment-là. C'est dans ce monde-là que nous vivons. Mais dans ce monde-là, encore une fois, si l'islam, le monde musulman est particulièrement convulsif, regardez l'Inde où l'hindouité sert à chasser quiconque n'est pas conforme, regardez la Birmanie où ce sont des bonzes qui persécutent, des bonzes bouddhistes qui persécutent les musulmans.
Et aujourd'hui, nous sommes en guerre non pas contre une religion, précise le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, mais contre une idéologie islamiste. Comment est-ce qu'on mène ce combat ? Par la loi et uniquement par la loi en France ?
Certainement pas. En plus, le terme de guerre, pour y revenir, est assez approprié puisqu'on est plutôt dans un conflit asymétrique où le faible, en fait, harcèle le fort, apparaît, disparaît, attaque, se suicide au besoin pour n'avoir pas à rendre de compte. Et en fait, on est véritablement plutôt dans une guérilla.
Alors, comment on mène cette guérilla ?
Alors, la guérilla, elle se mène de manière... La réponse à la guérilla, c'est une guerre, on répond à ça, en fait, par une grande entreprise culturelle et psychologique.
Il faut peut-être déjà faire comprendre que la laïcité ou l'athéisme, c'est pas une espèce de grande machine à détruire l'islam.
Voilà, mais ça, c'est un autre point sur lequel la France est attaquée. Alors, cette France qui en plus joue un rôle important dans les affaires proche-orientales continue à le jouer. Et c'est pour ça d'ailleurs que on l'attaque. En plus, elle a cette laïcité qui est décrite à tort, bien sûr, comme une espèce de grande machine à fabriquer de l'athéisme et particulièrement contre l'islam. Mais pour revenir à la réponse,
combat, la réponse, cette guérilla, c'est non pas par la loi, dites-vous, mais pas uniquement.
Pas uniquement. Pourquoi ? Parce que, on le répète, l'ambition djihadiste, c'est de faire basculer les musulmans d'Europe parce qu'ils seraient victimisés, n'est-ce pas, dans le camp, en fait, de la guerre civile. Comment est-ce qu'on évite ça ? Mais on évite ça par un grand effort, en fait, d'apaisement qui passe par le travail culturel. Les fanatiques
culturel
ne sont pas...
Culturel, j'ai pas bien compris.
Culturel, puisque vous savez qu'en France, l'État n'a pas décidé des cultes. Mais bon, il y a une jonction entre les deux, parce que tout culte finit par aboutir à une culture, et réciproquement. ce qui est important de comprendre, c'est que les fanatiques, ils sont pas dans un excès de religion, ils sont dans un défaut de religion au sens où ils n'ont aucune théologie. Au sens où ils ont généralement une connaissance qui est proche de zéro de la religion qu'ils disent défendre, n'est-ce pas? Dans l'islam, vous trouvez des tas de formes de théologie. Vous pensez aux soufis qui sont bien, bien fameux en raison des derviches, des formes mystiques, etc. Aujourd'hui, les islamistes prônent une seule forme de l'islam qui est, en quelque sorte, les compagnons du prophète, Ibn Tabiya, qui est un théologien du djihad au XIIe siècle, et puis les modernistes du XIXe et du XXe siècle, qui prônent la guerre. Il y a un raccourcissement, il y a une amputation de l'histoire.
Aujourd'hui, ceux qui désignent l'islam comme à l'origine de tous ces mots mettent en avant 5 ou 6 versets qui prônent la violence sur les 6000, je crois, versets du Coran. Il y a vraiment des paragraphes qui appellent à la violence ?
Bien sûr, mais c'est pas la question.
C'est l'argument qu'oppose.
C'est pas la question.
La droite et l'extrême droite d'abord pointent l'islam comme responsable de tous les maux en ce moment.
Bien sûr, mais aucun texte ne vit dans un cadre religieux en dehors de son contexte. Tous les textes sont véhiculés par la liturgie, sont véhiculés par le commentaire, par les homélies. Donc, de ce point de vue-là, c'est une faute d'isoler juste quelques versets pour essayer d'en tirer une leçon complète. En revanche, il est évident qu'il y a dans le monde musulman aujourd'hui un rapport difficile avec la modernité, n'est-ce pas ?
Ça, c'est clair. Mais alors ça, c'est aussi une question
d'éducation, ça. Beaucoup plus large, bien sûr. Une question en plus évolutive. Évolutive, puisque dans le monde musulman d'aujourd'hui, particulièrement le monde arabe, vous avez aussi une guerre civile interne qui traverse, qui est entre les réformistes et, je dirais, les hyper-conservateurs. Donc, la situation, qui plus est, on dit l'islam. Mais vous voyez bien que cet islam, lui, il connaît en plus une vraie guerre entre les sunnites et les chiites. Donc, c'est une question extraordinairement complexe. Si l'islam nous occupe particulièrement dans ce qu'on appelle le retour du religieux, c'est parce que c'est une religion universaliste. Donc, qui recrute, c'est la deuxième religion au monde, 1,5 milliard à peu près de musulmans pour 2,5 milliards de chrétiens, et c'est une religion qui a toute une extension géographique, parce que je vous rappelle que aujourd'hui le cœur démographique du monde musulman, il n'est pas dans le monde arabe qui est proche de nous, il est en Asie, très loin, en Indonésie et ailleurs. Donc, il faut corriger nos perspectives. Il n'empêche que, effectivement, il y a là une véritable question pour tous les musulmans. C'est une question pour eux aussi. Comment est-ce qu'on fait pour écarter le spectre de l'islamisme? Et ça existe.
La réponse que donne notamment le maire de Nice pour combattre l'islamisme en France au lendemain de l'attentat, il disait « les lois de la paix ne nous permettront pas de gagner cette guerre ». Propos assez déroutant. Qu'est-ce qu'on entend par les lois de la paix qui ne suffisent pas? Il faut donc des lois d'exception?
Moi, je crois que c'est une erreur. C'est une erreur parce que, très précisément, on ne peut pas sacrifier l'état de droit dans cette lutte. C'est exactement ce que veut l'adversaire, n'est-ce pas? C'est-à-dire que nous mettions à son diapason pour créer une espèce d'égalité, finalement, dans la violence.
Non plus une loi de paix, mais donc une loi de guerre. C'est ce que réclame Monsieur Estrosi.
Certes, mais encore une fois, je pense que c'est une erreur. Il y a certainement des raisons, peut-être d'émotion sur le moment, et peut-être aussi des raisons électoralistes. C'est aussi ce que réclame Monsieur Ciotti. Je crois, encore une fois, que c'est une erreur fondamentale. On ne peut pas du tout répondre à cette violence extrême, fondatrice, par une violence qui serait elle-même, qui finirait elle-même par être illégitime. Qui plus est, c'est véritablement tombé dans le piège, quoi.
Mais comment est-ce qu'on peut revendiquer fermement une laïcité du pays, en l'occurrence le nôtre, quand on sait aussi qu'il y a un fond, par exemple, tout le monde a été ému par l'incendie de Notre-Dame, par exemple. Donc à ce moment-là, de l'autre côté, des musulmans peuvent se dire, voilà, la France, c'est l'Église.
Oui, mais en même temps, si vous voulez, il y a une première chose d'abord, c'est que le catholicisme, c'est pas toute l'histoire de France. Mais enfin, l'histoire de France est quand même difficilement pensable sans le catholicisme. Quand vous êtes comme nous sommes à Paris, vous êtes au milieu du centre de Paris, vous avez Saint-Michel, Saint-Sulpice, Saint-Placide, Saint-Germain. Enfin bon, ça c'est un premier cas. Le deuxième point, c'est que Notre-Dame, c'est là le rapport aussi du culte à la culture. Notre-Dame est un lieu de culte éminent pour les catholiques et en même temps, c'est un lieu de culture pour les Parisiens, pour les Français, pour le reste du monde. Donc, c'est ce lien qui est important et de garder ce lien tout à fait vivant. La vérité dans l'histoire de la laïcité en France, qui ne commence pas en 1905 et même pas en 1789, c'est que en France, où on a eu l'expérience des guerres de religion, on a décidé que c'était l'État qui serait l'arbitre. Que l'État ne pouvait pas avoir une couleur religieuse, parce que si l'État avait une couleur religieuse, on sombrait dans ce cas-là dans la division, et après on sombrait dans le carnage. C'est ça notre expérience. Pour que l'État soit au-dessus, il faut qu'il soit neutre. Mais cet État, il a toujours pratiqué une forme de coercition, de manière à désarmer les religions. Ça a été vrai pour les protestants, bien sûr, malheureusement, avec des pages tragiques, ça a été vrai pour les juifs, sous Napoléon, qui ont été très, très pressés de devenir des citoyens au sens complet. Ça a été vrai évidemment pour les catholiques lors de la guerre des deux France.
Jean-François Colosimo, il y a aussi, vous en parliez, vous l'évoquiez tout à l'heure, la colère du monde musulman qui s'en prend à la France et à son président. D'ailleurs hier Emmanuel Macron sur la chaîne Al Jazeera a dénoncé une manipulation de ses propos et le comportement belliqueux du président turc. Que cherche en ce moment Recep Erdogan en soufflant ainsi sur les braises contre la France?
Alors le président turc, lui, il a une véritable question avec la France. Ce n'est pas une question immédiatement religieuse, c'est une question géopolitique. C'est que dans la politique qu'il poursuit à l'échelle planétaire, qui est en fait de remettre la main sur les anciens territoires de l'Empire ottoman perdus après la Première Guerre mondiale, on le voit donc agir en Syrie, en Irak, pour prétendument créer un cordon sécuritaire.
Mais quel lien avec la France?
Mais la France, elle a été puissance mandataire en Syrie, au Liban. Il agit en Libye, auprès du fameux gouvernement provisoire, qui est plutôt islamiste, il faut le dire, et plutôt frère musulman, parce que Erdogan est aussi le patron de l'Internationale des Frères Musulmans. Et en Libye, nous avons d'autres intérêts, d'autant plus que c'est véritablement aussi le lieu, n'est-ce pas, de passage des migrants. Enfin, il agit en Arménie. On sait qu'il fournit non seulement des armes, mais des djihadistes ou d'anciens mercenaires de Syrie dans le Haut-Karabakh. Chaque fois, la France dit non. Il agit dans la mer Égée, contre la Grèce, l'ennemi éternel de la Turquie. Et la France fait des manœuvres maritimes aux côtés des Grecs. Et donc, on l'empêche véritablement. Nous jouons notre rôle, qui est celui de la première puissance en Méditerranée, avec une concurrence turque, qui en plus nous semble aller tout à fait au contraire de la paix en Méditerranée et un peu plus loin dans le Caucase.
Un dernier mot sur le sort à venir des chrétiens d'Orient. On va rappeler que ce sont les premiers disciples du Christ présents dans l'ancienne Syrie, en Mésopotamie. Aujourd'hui, les descendants de ces chrétiens d'Orient sont non seulement menacés, mais persécutés. Il y a pour eux aussi une vigilance particulière en ce moment.
Il faut qu'il y ait une vigilance pas que pour eux. C'est-à-dire pas simplement pour les chrétiens d'Orient. Les chrétiens d'Orient, c'est pas une cause particulariste qui concernerait les chrétiens. C'est une cause universaliste parce que la diversité au Moyen-Orient doit, en fait, c'est le meilleur antidote contre le fanatisme. Et deuxièmement, ces chrétiens, pour des raisons culturelles, ont toujours été des facteurs, en fait, de laïcisation, de sécularisation, de démocratisation. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre.
C'est en cela qu'ils sont désignés par les djihadistes.
Voilà. Et quand, en fait, on lutte pour le maintien des chrétiens d'Orient, on ne lutte pas, encore une fois, pour quelque chose qui serait labellisé comme particulariste. Non, c'est une cause universelle.
Eh bien, merci d'être venu en parler ce matin sur France Inter, Jean-François Colosimo. Je rappelle votre livre qui est paru l'an dernier, La religion française, paru aux éditions du Cerf que vous présidez. Merci beaucoup d'être venu ce matin sur France Inter et bonne journée. Dans 20 minutes, il sera 9h.